teinte. Il parcourut ainsi la rue de la poésie démente, décoiffé, ses grands bras noirs déployés, grinçants. Il courait dans sa propre souffrance, dans ses rires figés comme des bas-reliefs. Il traversait des pierres à la nage. Il nageait tellement bien qu'il eût dû apprendre à se noyer si tel avait été son désir. Pas improbable du tout, ce désir. Il traversait des ciels glaireux, des champs pavés d'échines, l'haleine des lâches. Il courait depuis plus d'un quart d'heure dans les jambes de patineuses, dans les gestes de baguettisants. Parfois, il sautait un obstacle à croupetons. Ensuite, il fonçait de nouveau vers des cornes de bêtes jaillissant des torils, vers des phares d'auto dans les ténèbres, vers quelque chose de sacré, peut-être. Vers des bateaux bourrés de fruits et bien gréés, vers la névrose des mers. Vers le soleil orgiaque et ses couchers qui sont des coucheries, vers les requins ivres, vers les îles de la littérature, vers la débandade des possibles, vers leur regroupement, la mort possible, le coup de théâtre possible, la charité possible, vers cette distance possible qui va du possible au concret, impossible à abolir, jonchée de principes, de peur, d'amour, d'involontaire fraternité, d'hypocrisie. Essoufflé, en sueur, croulant sous des fardeaux d'extravagance criarde, il n'en continuait pas moins sa course, accroché à des basques d'enfer qui lui faisaient sentir exaspérément la vie jusqu'à des limites encore innommées, jusqu'à d'improuvables réels, comme la naissance soudaine de son personnage de chair et de sang, comme l'amant qu'il venait d'être pour la première fois. Il était le seul athlète de la ville et il courait pour s'éloigner de la ligne d'arrivée. Son souffle croissait, il haletait comme un boxeur boxant Dieu. Il chevauchait sa dernière énergie entre des brancards de feu. Il sentait le harnais et la crotte et il avait des naseaux extraordinaires et il avait l'illusion de vivre. Ses pas faisaient éclater le sol en myriades d'elfes et de mystères. Il se lançait vers ces futurs bacchanales de la pensée où circuleront des vins forts et où danseront les nouveaux savoirs. Il appelait à tue-tête les mots qui lui manquaient encore pour exprimer sa tragédie, qui manquerait toujours à toutes les choses qu'il avait encore à dire. Il enjambait son propre gouffre d'amour et de haine. Il décuplait les fureurs prophétiques du désir, rien qu'en récoltant sa bave dans sa main, rien qu'en brisant à coups de talons les pavés des ruelles lugubres. Et après chaque sacre de sa force, il remarchait de plus belle pour étouffer dans l'œuf ses défaillances, pour adorer son excès et l'agonie de son excès et son excès d'agonie. La rue était déserte et silencieuse. Le vent ne soufflait plus et pourtant il y avait dans les jardinets un remuement indéfinissable. Il se traînait comme pour demander quelque part le droit d'asile, mais ce rampement même était encore une façon de courir, une quête acharnée au terme de laquelle, pour outrepasser la vie, son visage se tournerait abondant vers la mort. Avec des bruits métalliques, la nuit parut se gratter le ventre. Des lueurs glauques se mirent à couler comme du pu le long des façades phlegmoneuses. Là-bas, une sorte dorée laiteuse semblait briser la poussée taurine des ténèbres. Un homme, pâle, à l'air inquiet, sortit lentement d'un buisson derrière lequel il avait guetté les commencements enfantins du jour, et les premières simagrées des réveillés entr'ouvrant leurs portes pour juger du temps. Il parut attiré par le chemin de fer qui passait près de là et dont il considéra longuement les rails. Entre les traverses, il y avait quelques herbes maigrichonnes. Il suivit la voie pendant une centaine de mètres, au cours desquels il se baissa trois fois pour ramasser de gros cailloux gris qu'il jeta dans le ruisseau. Enfin, comme mû par une résolution qui repoussait une tentation sauvage et voluptueuse, il prit le chemin de la ville. Livre, livre. Le borinage dont je me souviens nie la transparence. Il a des boursouflements de morico rossé. C'est aussi un emphysémateux. De plus, il attire les suies, les traces de doigts, les dépôts louches. La mine est là comme la partie honteuse de la nuit. Ce pays m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, il est méconnaissable. Ses mines ferment, sa peau s'éclaircit. Il se donne des maisons presque blanches, des fleurs ailleurs que dans les cimetières, des endimanchements. Il y a raréfaction du crachat. La crasse présente ses excuses à la serpillière. N'étaient les terrils, on se croirait un peu moins dans le nord. Léger glissement méditerranéen. Bientôt, le borinage aura des poumons pour crier, alors que jusqu'ici, il n'avait que des bronches pour siffler. À bien l'observer, pourtant, il porte encore, de part en part, les stigmates de tout un passé de contre-lumière. On ne peut vivre aussi longtemps de fouilles et de houilles sans se retrouver à l'heure de la remontée finale, le teint terreux, la peau ridée, l'œil funeste. Le borinage m'attirait par ses entrailles. Je rôdais près des carreaux de mine. Je donnais des rendez-vous d'algarades et de flirts en haut des crassiers. Je contemplais la grande roue tournante du chevalement, mât unique d'une galère pétrifiée, invisible, et où je savais que d'âpres races faites nègres par la force des choses ramaient contre roc. J'entendais des mots comme grisou, silicose, berline, toute une terminologie angoissante évoquant un monde inconciliable avec la réalité du jour. En fait, je regardais les mineurs comme des êtres à part, inclassables, figures d'asthme et de démolition, carbonivores creusant des macrotopinières. Ils voyaient, savaient des choses que nous ne pouvions ni voir ni savoir. À mon sens, le vrai peuple, le détenteur des dures vérités, c'était eux. J'étais convaincu qu'ils ne pouvaient penser comme ceux de la surface. De plus, ils avaient le masque diabolique, des rires difficiles, très matés, d'yeux blancs. Leur attitude politique portée aux extrêmes contrastait avec la tonalité porcine de l'ordre établi. Sans le savoir, ils agissaient sur la subconscience des diurnes qui recevaient d'eux cette part de trouble, de malaise, de peur même liée immémorialement aux ténèbres. Ils appartenaient à la mythologie du mal. Pour bien des gens d'en haut, propres sur eux, s'ils descendaient aussi bas, c'est qu'ils étaient damnables. Mon père était couvreur. Je louchais du subconscient. Un œil dans la mine, l'autre sur lui. Le gouffre et les hauteurs simultanément épiés, créateurs d'un unique émoi. De mon père, j'admirais le glissement sur les tuiles, en évadé, en rocambole, mais aussi parfois la pâle, la lente reptation. C'était un couturier des toits. Il ne pratiquait certes que l'alpinisme des humbles. Néanmoins, il connaissait le royaume du vent et surtout il dominait du regard les passants. Le mineur qui lève les yeux et le couvreur qui les baisse rencontre peut-être au même point de convergence une silhouette bizarre qui crie, qui court, qui tombe, qui n'est rien, l'homme. Pour moi, entre ces deux regards, il y avait une épaisseur trouble de jambes et de sexe, quelque chose qui s'allumait à mon rêve et que j'avais envie de mordre. Vu de la rue, mon père me paraissait un géant, tant il faisait corps avec les crêtes. Je lui faisais si des signes de la main. J'étais certain d'être minuscule. C'était le prix que je payais à ma verticalité sans vertige, parmi les piétons sans aura. Acrobate, pur de public, funambule méconnu, mon père fut-il mon premier héros ? Je le crois, même si je ne me souviens guère de mon culte. Même si une fois redescendu, il recouvrait très vite à mon gré ses dimensions humaines. Sur le clocher, il faisait des prodiges. Ce clocher n'en avait que pour Dieu, pointe faite pour déséquilibrer l'homme, pour le jeter bas, lui et son orgueil. Vautré sur l'ardoise, progressant vers la flèche, mon père semblait à la merci d'une colère du ciel, d'une taloche du diable. Parfois, dans les montées, je l'aidais à pousser son fardeau, trique-balle chargée de tuiles, de sable, de ciment, de cordes et par-dessus tout cela, l'échelle, mon jouet préféré d'alors, le seul qui soit resté sacré jusqu'au bout. Cette échelle, je la revois, source de mes premiers vertiges, mais aussi tragique outil, puisque c'est d'elle que tomba mon père. À l'époque, au plus haut échelon, elle n'était pas seulement mon refuge. Elle était encore le point de départ de bien des jeux grisants, voltige, grimpés, aéroplanes et jusqu'au simulacre de la pendaison. Elle et le cerceau, non le mécano, survivent dans la mémoire et virent à l'imagination en tant que symbole cette fois, l'une de l'ascension. L'autre des rythmes. Ma mère, dès ma naissance, s'était mise en tête pour me soustraire à la condition ouvrière de me fabriquer un destin de col blanc, en l'occurrence de comptable. À 15 ans, à la mort de mon père, victime d'une chute, et à la suite d'un échec scolaire qui devait en assombrir les derniers jours, je me retrouvais employé de bureau dans une usine de mon village, un peu plus tard facturier dans un journal de Bruxelles. Ma mère était ravie. Je ne serais pas prolétaire. De mon côté, j'étais plutôt mari. Mes lectures de jeunesse, combiné à ma passion immodérée des mots et à l'intensité de mes pulsions, avant tout les sexuelles, semblant m'avoir prédestiné davantage à fuir l'univers des nombres qu'à m'y sédentariser. J'en ai donc établi des bilans, des commerciaux, cela, la rage au cœur. Confusément, j'avais l'impression, en me livrant à de tels exercices, de commettre un péché mortel, que ma vraie nature ne me pardonnerait pas, elle, qu'en ses profondeurs, un mouvement charnel, verbal, parfois saignant, ivre de rythme, me mettait en demeure de n'écouter que lui. Cela dit, je ne pouvais en vouloir à ma mère. Elle avait un ventre qui démentait le pragmatisme dont elle faisait preuve à mon égard. Son menu positivisme de femme soucieuse de mon avenir m'avait rêvé en rond de cuir. C'était à ses yeux le mieux que je pouvais espérer comme ascension sociale étant donné nos origines. À l'écoute de ses tripes, je la soupçonnais d'être d'une autre envergure que celle que lui dessinait sa trompeuse raison. Son corps, en action, en trépidation, n'arrivait pas à me dissimuler ce qu'il brassait de tension et de poussées incontrôlables. une sorte d'irrationnel fébrile, ténébreux, en vêtements raccommodés, distribuant autour de lui la générosité autant que l'injustice, la susceptibilité ombrageuse autant que la bougeotte ménagère. Je n'étais pas dupe de ces discours maternels. Certes, il fleurait bon la morale, la convenance, la bonne éducation, mais je devinais où il voulait en venir. Encadrer mon désir de liberté et d'affirmation de soi, de quelques principes immuables, destinés à faire de moi un modèle, un exemple dont elle ne pourrait manquer de tirer une grande fierté. Aucun doute possible. Elle et moi étions pour un oui ou pour un non portés à ébullition. Nous avions les mêmes entrailles, je veux dire, de la même tonalité excessive, telle une survivance illisible des excès mythologiques. Mais elle ne produisait pas les mêmes paroxysmes. Les siens ne recevaient pas, au moment où ils s'exprimaient, leur homologation de mots ou de bribes de mots capables de leur valoir un commencement de sens, sinon de légitimité. Je lisais beaucoup, je lisais frénétiquement, et bien que ma mère manifestât envers la langue française un respect qui ne laissait pas de me troubler, elle n'y voyait point, comme moi, une chance d'interpréter ces sensations fortes à la lumière, ne serait-ce qu'à la lueur, du pouvoir de les nommer, ou au moins de tenter d'expliquer leur nécessité et, pour certaines d'entre elles, en quoi elles étaient fatales. Mes lectures effrénées avaient pour effet de m'autoriser à vivre dans ma chair, en accord avec mes instincts, des formes de désordre transgressif dont elle n'eût jamais osé imaginer qu'elle possédait la formule ou couvait la perspective. Ces frustrations, ces insatiétés, elle ne prenait pas le temps, ni n'avait les moyens de les convertir en conscience de sa vraie valeur, ses impatiences tournant en rond et vite. Cette conscience, même intuitive, je l'avais pour elle. Entre ma mère et moi, aussi longtemps que nous cohabitâmes, il y eut plus de conflits rougeoyants que de blêmes armistices. Je l'aimais, certes, mais périlleusement, plus pour sa grandeur inemployée que pour ses sentiments affichés. Si elle avait eu vent de mes hérésies clandestines, elle s'en fût épouvantée, à tort, évidemment, sur le coup, étant loin de penser qu'un jour j'en ferais un livre dont elle s'enorgueillirait. En fait, elle était viscéralement une figure de clan. Le matriarcat, un point, c'est tout. Il y avait quelque chose de balkanique dans ses coups de sang, un air de représailles. Pour un mot de trop, elle se vexait. Ce mot « retiré », parfois, c'est comme s'il lui revenait double ou appuyé. D'accord pour l'oubli, mais sous réserve. Quand elle humiliait, c'était, selon elle, pour l'honneur. On lui pardonnait beaucoup, moi le premier. Il lui suffisait de sangloter plein son mouchoir ou un pan de sa robe. Il est vrai qu'elle pleurait effondrée, comme à bout de force, devant de telles larmes. On se grandit à les essuyer. On y a vu le signe d'une munificence déçue, blessée, plus que celui d'un épanchement pour attendrir. S'il y a remords, donc faute, il s'agit d'abord d'en accuser la pauvreté, non le pauvre, le malheur, non le malheureux. Je n'étais sans doute pas un bon fils, au sens où ma mère entendait que je le fusse. Je crois cependant n'avoir jamais été un fils indigne. Si j'avais une parcelle de sens du discernement, j'en usais davantage pour la comprendre que pour la juger. En fait, je savais lire dans ces orages leur détour par la clémence. J'ai souvent considéré que d'être sorti d'un tel ventre n'était pas un mince privilège. C'était mieux qu'un berceau sur lequel se penchent les bonnes fées. On apprend beaucoup à une telle école. À la fin, point de diplôme, mais une vision combattante du sens à donner à la vie. Ce sens serait-il introuvable? À tout instant, j'étais mis en présence des forces du bien et du mal, à l'état brut, dans leur remous souterrain. Je ne serai jamais frivole, superficielle. L'intensité d'être s'opposant aux illusions du paraître, ce serait ça ma façon de pratiquer le pessimisme exultatoire, celui qui sait se montrer profond sans se comporter comme lugubre. Non une objection au bonheur, mais à ses niaiseries. Non seulement, en écrivant cela, je ne m'éloigne pas de ma naissance de et à l'écriture, du pourquoi et du comment de cette naissance, mais je m'y engouffre. Je me l'explique lumineusement, et sa nécessité m'apparaît charnelle, on ne peut plus palpable. Je suis allé à la langue que j'écris, m'y suis déposé fétalement, en pelotonné d'abord, en agité ensuite, en expulsé enfin, comme en une gestation qui devait, elle, durer plus de 9 mois et n'en finit pas de me recommencer d'une certaine façon, à défaut de m'avorter pour de bon. De la chair de la langue, en 1963, je deviendrai l'accouché et l'écrivant, jamais tout à fait un enfant ni absolument un monstre, mais un possédé, oui, de toute évidence. Je serai le fruit odorant, disproportionné, imprévisible, d'une rencontre renversante entre mon trop d'instinct et une passion de la lecture, ayant eu la singularité d'être à la fois utérine et jouissive. Ce qui signifie que, quoi que j'écrive, ici même, ou tout le long de ma 50aine d'ouvrages publiés, c'est mon rapport intime aux abîmes et aux abysses qu'il écrit de ma main. Je suis sans cesse rattrapé par l'énigme des grandes fosses pélagiques. Le dit du ventre de ma mère, ce n'est pas un prétexte pour en immobiliser l'image dans un médaillon ou pour me justifier de n'être jamais allé, même le jour des morts, au cimetière où elle repose. Les photos sont trompeuses. La mère du ventre duquel je suis né n'a plus que de loin en loin le visage que je lui ai connu. Cette mère-là est devenue du verbe dans mon verbe. Elle vit une sorte de seconde vie dont je n'ai nulle idée, taillée dans la matière en mouvement des mots et jusque dans l'enchevêtrement bizarre des consonnes et des voyelles, d'où s'échappent, dans le meilleur des cas, des sonorités inouïes. Il me semble que là où ma mère se trouve, à l'état de verbe, rendu méconnaissable par ce verbe, c'est mieux qu'une tombe. Heureusement, le ventre de ma défunte génitrice n'est pas tout le verbe. Ce serait réducteur pour ce verbe, mais je crois deviner à certains tressaillements de mon écriture qu'il pourrait bien y avoir déposé comme mot ou fulgurance de mot un peu de son souffle, peut-être de son dernier souffle. Entrailles du langage, entrailles de ma mère. J'ai une oreille, lorsque j'écris, pour capter ce son qui me vient du fin fond des origines de la vie, de ma vie. Féminaire. Comme c'est beau. Un désir de femme. On dirait un embrun d'océan brouillant un regard fixe. On dirait deux yeux où viendrait mourir d'une onde un spasme des fonds marins. On dirait la naissance d'un cerne autour d'un égarement. Comme c'est beau, un désir de femme. On dirait ce qu'une bouche qui s'entr'ouvre révèle d'une langue qui s'entraîne. On dirait déjà cette langue dansant doucement dans la bouche la danse du baiser. On dirait une humidité qui a commencé là où on l'imagine et s'étend partout où il n'y a plus de raison d'encore l'imaginer. Comme c'est beau, un désir de femme. On dirait un soupir en avant d'un bégaiement. Un aveu par derrière un souffle. On dirait un talent de halter sans que cela se voie, dans un génie de gémir sans que cela s'entende. On dirait un mot osé, s'empêtrant comme pour la dernière fois dans un silence de trop. Comme c'est beau, un désir de femme. On dirait une main qui fait semblant de n'avoir rien à faire, alors qu'elle n'en finit pas de se préparer à tout. Une main qui ressemble à une songeuse, tandis qu'elle est une impatiente. On dirait un corps qui aurait semé son gardien et se cacherait nu sous une robe transitoire. Comme c'est beau, un désir de femme. On dirait une défaillance globale où s'aventurerait un élan singulier. Un oui de cuisses se desserrant, de jambes s'écartant. Un oui d'urgent entrebâillement et de proche béance. Un oui qui courrait sur l'échine et dont un rein mendiant recueillerait les offrandes frémissantes et lascives. On dirait un assentiment ou un consentement d'une espèce rare, sensorielle, ductile, gourmande, telle une résistance qui fondrait au feu, telle sa brûlante déroute de vaincu. Comme c'est beau, un désir de femme. On dirait un violon qui se rongerait les cordes, à côté d'un archer qui se lècherait le crin. On dirait un ventre où l'animalité oisive, sous l'effet d'une morsure, se remettrait à l'œuvre. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait un vin d'un cru énigmatique, un vin dont ta fièvre élèverait le titre, dont ta passion relèverait le bouquet, un vin qu'aurait tiré les veines de ta nuit et qu'aurait bu jusqu'à ébriété le goulu de tes jours, un vin que bonifie dans ta gorge ton importante salive, un vin d'un goût licencieux, d'un velouté de vice, rehaussant ton ivresse d'un titubant éclat. Un vin de lèvres grandes et petites, mouillant de son excellence ta voilette pubienne. Un vin que l'on dirait pâli par des veilles languides, mais se violaçant d'une imminente folie. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait une peau qu'il suffit de toucher pour que de sa moiteur elle fasse une saison, pour que de sa sueur elle loue la canicule, et pour que d'une caresse elle prie sa décomposition. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait une peau sur un fruit qui rêve qu'on le pèle et dont chaque pelure dénuderait un jouir. On dirait de ce fruit le noyau arraché à sa pulpe, à sa peau, et s'en allant rouler avec toute sa raison dans un abîme de toi. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait un blasphème plus croyant qu'une piété, une dislocation plus près de la foi que ne l'est un agenouillement. On dirait un visage de sainte se penchant sur un miroir du diable et y lisant l'extase qui l'immortalisera. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait les quatre membres brisés d'un martyr. On dirait ces mêmes membres mus par une fête extrême, tout péché confondu, toute liesse de chaîne, toute capture, toute captivité bénie, toute prison voulue traversée de chevaux. Oh, liberté chérie! Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait soudain un ange malade de ses ailes, déchu par amour humain et inhumain, et qui poserait ses pieds à jamais en terre de luxure, les y enfoncerait pour des noces qui dureraient le temps que toute la perdition soit une apothéose. On dirait cet effleurement qui décide de la fleur que j'aimerais humer avant de n'être plus. Comme c'est beau, ton désir de femme. On dirait qu'il donne au mien tout l'art inexplicable de m'en anéantir. Une philosophie à coups de rein. Mes manuscrits sont illisibles, tournoyants d'illisibilité. Moi-même, je peine à leur déchiffrement. Dubuffet y voyait un parangon de l'art brut. Aujourd'hui, le génie d'Alechinski leur ajoute sa griffe. Mon rythme y dessine des courbes aléatoires, promises aussitôt à la rupture, à la dislocation. Elle n'a rien de tellement étonnant dès lors, la fascination des plasticiens pour mes brouillons. J'écris en terrain miné, comme certains d'entre eux y peignent. Le sens trop fort d'un mot peut en faire sauter d'autres, là où il se pose. Dans mes manuscrits, des lettres s'éjectent des mots. Des mots s'éjectent des phrases, sacrifiées à la vitesse d'exécution, au corps. La pulsion de créer, parfois foudroyante, à l'esprit, l'effort de la suivre, avec ses doutes, ses paris, ses exigences, son souci de syntaxe. La main, elle, fait ce qu'elle peut dans tout ça. Forcément, elle est plus lente, toujours retardataire, la pauvre, même piquée au vif. Il n'y a pas le feu dans les phalanges. Le résultat est là, sur la page, des collisions de signes. Des enchevêtrements de carcasses sonores. Écrire, souvent, c'est se porter au-devant de tels accidents, de tels chocs entre le dire et le non-dit, entre l'instinct de se dépasser par le moyen des mots et l'obstacle de la parole murée. J'entends des cris. Mais ne nous y trompons pas. Il y a présence de style, de sens, dans ce drame de la circulation ou de la guerre. Mes manuscrits, c'est comme une traduction fidèle de la lutte pour la vie, soit dans un corps individuel, soit dans un corps social. La libération se paie d'abord de convulsions. Ensuite seulement, on pourra parler de beauté, de poésie. Mes manuscrits ne sont pas beaux. Leur vérité commence au trauma. À les observer de plus près, j'y dénombre des morts. Je veux dire des mots laissés pour morts. Ils n'ont pas résisté à la violence du passage de l'inconscient au conscient. Je leur fais confiance, malgré tout. Même comme détruits ou disparus, ils signifient encore, émettent des ondes. J'ai du respect pour ces victimes de mes excès. Je mise sur leur revenance un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Pour les blessés, c'est plus facile. Ma machine à écrire les tape tout en les retapant. Mes ratures sont des blessures, des plaies ouvertes dans le corps verbal. Parfois, la vérité s'extrait comme une balle. Autour saigne l'écriture. J'ai une bonne machine à écrire. Elle remet sur pied les foudroyés du manuscrit. Elle leur rend leur lisibilité un instant compromise, leur faculté de se combiner sur la page en chant propitiatoire. Je dis du mal de toutes les machines, sauf de celle-là, qui sait si bien rétablir mes manuscrits par nature désintégrés dans leur intégrité. Ce n'est pas une machine comme les autres. C'est comme si elle s'assouplissait quand je m'en sers, s'adaptait musculairement à la brutalité de ma frappe, comprenait qu'on puisse faire livre de cette façon-là, au départ de graphies informes, quasi impénétrables. C'est bien simple. Mes manuscrits se dérobent au classement, à la pagination. Ce sont des grimoires errants, décourageants jusqu'au désir d'en faire au moins des liasses. Ces témoignages, sur une manière d'écrire tordue, exacerbée, d'absolu, leur aboutissement d'inabouti, tout cela objecte à l'analyse scientifique des textes. Être méconnaissable, voilà le destin de mes manuscrits. Ce sont tout au plus des objets de curiosité et encore, se comportant comme des débandades. Impossible de les regrouper. L'œil qui voudrait les sédentariser, ce serait en vain. Ils récusent la fixation. Personnellement, je n'ai plus le temps ni la patience de m'en occuper. Ils ne me donnent d'ailleurs rien de tel. Ils ne me demandent d'ailleurs rien de tel. Bien au contraire. On dirait une diaspora hirsute et dépenaillée vouée à m'échapper. Ils emportent avec eux la preuve irréfutable que, dès lors que les mots sont des corps dans le corps, ils ont des entrailles à écrire dans les entrailles de ce corps. Le propre des entrailles en écriture, c'est de manquer de la rassurante visibilité de l'enveloppe. Mes manuscrits n'ont pas d'avenir chez les chercheurs superficiels. Peut-être en ont-ils chez quelques psychologues au-dessus du lot. ceux-ci devraient se pencher sur certains aspects de ces jets, tels, ici et là, ce resserrement des ratures en une sorte de tache de sang d'encre, un trou opaque, résiduel, insondable dans l'acte d'écrire. Et pourtant, il se peut que ce soit à cet endroit et en nul autre, plus inspiré, que le corps et la pensée de ce corps se mettent à la naissance du mouvement vital de l'écriture, qui n'est pas encore la condition de la danse. Ils en sont la matrice noire, vibratoire, désordonnée, mais inaugurale. Ainsi, parfois, commence une libération par ce qui la nie. Le sacre de la femme. Sur ta peau, écrire un roman. Je te dis, écrire un roman sur ta peau. Commencer au cou, il se poursuivrait par les seins, épisode d'une douceur menaçante, apparition d'un héros têteur, masticateur, descendrait sur le ventre. Là aurait lieu une violente bataille, une gigantomachie, des êtres nus, hirsutes et barbares, puant l'alcool, se disputeraient un espace fertile. Sur ta peau, écrire un roman. Aux abords du sexe, tracer des lignes d'une ardente lubricité. Chapitre haut en cri, en choc, en jus, en mou, en caresse, en glissement, en fouillement, en odeur, en saveur, en brûlure, en magnifique cloaque. Dans le sexe même, la partie obscure, voire illisible de l'histoire. Te gainer les cuisses d'une soie de mots rares, galbants, écriture fine et régulière, née dans la moiteur d'un pli en bord de vulve, le récit confidentiel, presque précieux, d'un désir de potier au ralenti. Une haleine de signes, des accents de piété s'éteignant aux genoux. Puis les jambes, qu'enveloppe soudain un tel vocabulaire à grosses mailles, faisant saillir la morbidesse des chairs, ses douces flambées de blondeur. Un conte aux ardeurs d'été, la narration d'un art de marché touché par la grâce, puis d'une danse que j'imagine furieuse, tribale, haletante, s'achevant sur une vision statuaire, mollet d'ivoire par mes lèvres amollies. Au pied, la touche d'humour. Je reprendrai mon œuvre à la nuque. Je parcourrai d'une plume inspirée, mais rêveuse, la page dorsale, consacrée aux grandes aventures de la main d'amour, celle qui se promène lentement de la chevelure éparse à la naissance du cul. Celle dont les doigts se plantent dans l'échine parce que la fornication veut aussi l'os. Celle qui lacère, parce que nos rêves ongulés cherchent aussi le sang. J'y parlerai vers les reins de l'éclair immobile du désir dans l'œil de l'adorateur de croupe. Sur tes fesses, l'épilogue. Là nécessairement, nulle part ailleurs. Texte échevelé d'abord, écriture éclatée se muant en calligraphie fervente à l'approche du sphincter. Histoire finissant en folie, rituel et déchaînement mêlés ou alternés, scandés par la fureur des suctions, s'enivrant de l'odeur combinée des suspensions de besoins, épopée de la viscosité racontée clapotante. Je n'écris rien sur les bras qui se délient comme au balai, je les peins en mauve, ainsi que les mains, le visage. Sur le front, en tout petit caractère rouge, le titre. Par exemple, Amour agit. Les yeux de la femme livrent, sont félidés d'or. Je te fourre dans un sac, un manteau d'une pâleur de sac et à boutons d'acier. Je te porte chez l'éditeur. Il pense, me voyant apparaître, encore lui. Mais je t'étends sur son bureau, sac crevé, manteau béant, ravi. Il bave, bande, bafouille. C'est la première fois, je crois, qu'un manuscrit produit sur lui un tel effet. Il me lit tout de suite et avec une avidité nouvelle. Il dévore mes mots, mais c'est toi l'avalé. Le livre est accepté, te voici pollué. Tu es une œuvre courte, brûlante, par moments pornographique. Je ne sais encore si tu iras à l'imprimerie. Typo et Lino t'y baiseraient en tempête. Tu me reviendrais toute négrifiée d'encre.